Félix 95.5 FM.
J'ai un fils enragé. Qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé. Par les temples, sa finance où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays.
Et oui, toujours sur cette terre de Félix Leclerc depuis des décennies. Que cet homme a marqué l'histoire de la musique et aussi de la politique comme telle. Bienvenue à cette édition. Déjà, nous sommes le 4 juin. Oui, déjà le mois de juin comme tel. Et aujourd'hui, on 26 degrés. C'est quand même bien, hein? comme tel. Et des sujets chauds, justement, aujourd'hui.
Absolument. Absolument, c'est notre thématique.
Et oui, donc, évidemment, pendant cette heure de logement, un droit. Florence, bonjour.
Bonjour Alain.
Et puis Manon aussi.
Bonjour Alain.
Alors, bienvenue toujours avec cette magnifique chronique comme telle. Toujours un plaisir de vous accueillir. Puis je ne dis pas ça pour être fin. Vous allez avoir du monde fin dans les prochaines semaines qui vont vous dire, vous êtes gentilles, mesdames. Je vous aime. J'appuie ce que vous faites.
Des gens qui vont vouloir se faire élire, c'est ça?
Genre ça, là. Oui, oui. OK, oui. C'est ça. Ils viennent même faire l'épicerie ici, même à Sherbrooke, là, comme tel. Alors aujourd'hui, donc, première demi-heure, bien sûr, tout à l'heure aussi, Solidarité populaire Estrie. Ça va vous faire de la peine, ils vont parler contre le projet de loi 1.
Ah!
Je sais, voyons. Vous allez être fauché. Hein.
D'ailleurs, Simon était bien en forme hier pour défendre son projet de loi.
Ah, ouais, il est toujours en forme. Et justement, ben, ça m'amène toujours à reconnaître le territoire que lui n'a pas compris non plus. Hein? Surtout la façon, quand le chef des Premières Nations a dit « Nous sommes venus, on n'a pas été invités, mais on a décidé de venir ». Ça donne une idée que Simon Jolin-Barrette et d'autres de ce parti-là ne reconnaissent pas que nous sommes sur un territoire non cédé. Donc, toujours le rappeler, le colonialisme comme tel, puis justement les Premières Nations actuellement, on voit les femmes qui, quelques années, ça avait sorti ça, que les hôpitaux, ils vont faire qu'une femme n'ait plus d'enfant, là, je cherche le terme technique, là.
Oui, la stérilisation.
Exactement. Et il y a 3 ans, je l'avais sorti dans une émission, et c'est revenu, là. Donc, ils n'ont pas compris encore. Et ainsi de suite, comme tel. Fait que il y a du travail à faire encore.
Oui, d'ailleurs, Alain, je vais juste rebondir là-dessus. Là. Hier, je te disais que Simon était en forme sur son projet de loi, mais notre camarade Haroun Boisy de QS, il s'est fait rabrouer 2 fois alors qu'il insinuait que le projet de loi 1 est un projet colonial, puis qu'il était assimilationniste. Et là, le président de l'étude détaillée lui disait de retirer ses paroles, que c'était pas gentil d'accuser le gouvernement de la sorte. Donc, solidarité avec le camarade Haroun.
Ça devait être Bachand qui était le président de ça. Je pense que c'est lui qui est président de l'Assemblée, là, le député de Richemont.
Oui, ça se peut très bien. Là, ouais. Il n'avait pas l'air très sympathique, en tout cas.
Ben, de toute façon, toutes les fois que je l'ai vu, là, non, il a... il passerait pas la note. Là. Alors, effectivement, c'est une réalité, puis que justement, de voir comment. Mais là, actuellement, il y a un projet de loi 20 qui est mis au rencard sur le logement.
Oui, ça, c'est une victoire.
Victoire. Fait que, donc, il y a eu des mobilisations, on va voir comme tel. Oui, ton micro est ouvert.
Oui, est-ce qu'on m'entend bien?
Oui, oui.
C'est un enjeu d'écouteur, ça veut dire.
C'est ça, oui, c'est ça.
M'excuse d'avoir dérangé l'ordre des choses.
De toute façon, on fait ça comme en famille ici.
À la bonne franquette.
À la bonne franquette. On n'est pas... On est là pour passer des messages, puis le direct nous amène ça comme tel.
Oui.
Mon équipe de techniciens et techniciennes accepte ça très bien aussi. Là.
Ça nous amène beaucoup de plaisir aussi, le direct. Je pense que vous avez quelques-uns, quelques-unes au cheap à bien aimer ça, faire du direct avec toi.
Oui, puis moi, c'est un plaisir aussi de le faire avec vous autres. Fait que on entre dans le sujet chaud.
C'est drôle que tu dises sujet chaud puis que tu sois pas au courant de ce dont on va parler plus que ça, mais voici, Alain, le beau temps est arrivé. On a envie de se rassembler ces jours-ci et on comprend pas pourquoi on est pogné pour travailler quand l'effort de production sert à la guerre, au génocide, à l'enrichissement des grandes corpos. Puis même si on est dans l'éducation à la petite enfance, par exemple, on a l'impression d'être en train de former des agents du capitalisme de demain ou la réserve des forces armées de l'État colonial. Bref, c'est difficile un peu de s'enthousiasmer pour nos activités quotidiennes, mais on s'enthousiasme quand même un peu avec le soleil qui revient parce qu'il y a les longues journées qui arrivent, qu'on va pouvoir partager avec des camarades, des occasions de se croiser au parc, dans la rue, de boire une grosse slotch, tout seul ou en gang. Là.
Oui.
Fait que le mois de juin, quand même, ça amène son lot de positivité.
Les terrasses sont ouvertes.
C'est ça, ça, c'est ça. Mais notre profonde tristesse, par contre, notre colère, notre exaspération sont pas bien, bien loin. Puis aussi, la quête de sens, tu sais, dans notre quotidien.
Oui.
On te surprendra sûrement pas, Alain. Quand on a programmé la chronique d'aujourd'hui, on s'est dit que le mois de juin, c'est un mois de fête,
oui.
D'effusion de joie, un mois de grandeur.
Yeah.
Et on s'est donné le mandat de trouver une thématique qui serait à la hauteur de cette énergie-là.
Ah.
Puis en parlant de belle énergie, Alain, c'est pas le mois de ton anniversaire, le mois de juin?
Oui.
Mais bon, même si c'est ta saison, on va faire attention de pas trop t'inclure dans nos foleries, vu que l'esprit des fêtes, de la fête et l'arrivée imminente du solstice.
Mais c'est pas de ma faute. Moi, je suis mis au monde, puis pas...
Ouais, t'as pas fait ce choix-là.
J'ai pas choisi ma date de naissance, là.
C'est ça, t'es quand même arrivé dans un pic saisonnier.
Je suis né le matin de la fête des pères.
Oh!
Bon, cette année-là, c'était la fête des pères.
Bon, ben, on salue ton feu, papa.
Oui.
Donc, comme je disais, là, vu que l'esprit de la fête et l'arrivée imminente du solstice, ben, ça nous a finalement inspiré une petite thématique un peu tordue, là, on veut prévenir les auditeurs, auditrices, qui a d'ailleurs donné son nom à la chronique du jour, c'est-à-dire le michoui des proprios. Et soyons franches, quand on a pensé à ça, on imaginait peut-être des réjouissances qui se tiendraient dans la cour d'un gros owner, mais c'était certainement pas un camarade animalier qu'on pensait mettre sur la broche.
Oups! En fait, cette idée-là du michoui des proprios ne nous est pas venue de nulle part. On a été inspiré par une autrice qu'on aime beaucoup, Kev Lambert,
oui.
Qui a mis en scène un michoui de proprios d'usine dans son fameux roman « Querelle de Roberval ».
Parce qu'elle est passée au début, entre autres, tout le monde en parle il y a quelques semaines.
Oui,
entre autres,
oui, où elle avait fait un passage remarquable quand même.
Oui. Ben oui. Ouais.
Le roman de Kev Lambert a récemment été adapté au théâtre et la pièce a été jouée ici même à Sherbrooke, à la salle Grand Espace, mais aussi à Montréal, entre autres au théâtre du CEP. Et c'est là que Manon a eu la chance de voir la pièce.
OK.
Le Méchoui des proprios, les auditeuristes nous voient peut-être venir, c'est donc une chronique hostique c'est cheap dans une version commentaire culturelle.
Hey.
Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre. On est venu à parler de culture. On est venu pour parler de culture avec toi, oui. Mais on s'en tiendra pas là à faire des suggestions de lecture pour l'été, pour le bord du lac ou de la piscine. C'est surtout qu'on voulait faire une chronique qui montre à quel point nos manières de raconter les histoires, c'est important. On voulait attirer l'attention sur les façons acceptables de mettre en scène les forces qui façonnent nos destins, ainsi que les rapports de pouvoir complètement coco avec lesquels on doit constamment composer dans notre quotidien. Alors voilà, commençons par notre point de départ. Manon, ça raconte quoi, le roman « Querelle de Roberval » ?
Mais en fait, « Querelle de Roberval », c'est un assez bon roman qui commence au cœur d'un conflit syndical dans une scierie de Roberval. Les ouvriers et ouvrières sont en grève et d'une certaine façon en guerre contre leur boss, Brian Ferland, propriétaire de cette scierie dite familiale. Cette toile de fond nous permet de rencontrer un personnage queer, un beau grand top, qui dérange le milieu patriarcal et industriel de Roberval.
En effet, oui, sûrement.
Ouais. Une petite gang d'ados criminalisés et twink, ainsi que divers protagonistes qui essaient de survivre tant bien que mal lors de cette grève qui deviendra lockout. Un roman marqué par les conflits, les luttes, la sexualité et la violence, dans un langage cru pour lecteurs et lectrices avertis seulement.
Oui.
Querelle de Roberval, à mon sens, c'est une œuvre qui reprend les codes de la tragédie. L'ensemble des personnages se trouvent face à la fatalité. Leur destin est lié à des forces qui les dépassent grandement, mais ils prennent quand même en main. Ici, certainement, ce sont les forces du capital dont il est question et de son pouvoir écrasant. Et si Querelle et sa comparse Jézabel dans le roman et toute leur bande n'ont aucune chance de se sortir vivants ou vivantes de la lutte qu'ils mènent, ils se battent quand même, en fait, contre leur boss au nom d'idéaux qui les dépassent.
Okay.
Au nom de la justice, de l'amour, du désir, de la joie. Ils dépassent les codes de la moralité de leur temps, ils repoussent les limites de l'acceptable et, en chemin, ils nous libèrent en quelque sorte d'une pression qu'on sous-estime peut-être. La pression dont ils nous libèrent, elle est liée à un registre qui est omniprésent dans nos vies. Pas la tragédie, mais plutôt le drame. Au quotidien, on est appelé à se raconter au rythme des événements qui surviennent dans nos vies individuelles et segmentées. On raconte les actions qu'on pose pour changer les choses dans notre quotidien, les dénouements heureux, les péripéties qui nous arrivent et qui surviennent au terme de nos actions. Cette manière dramatique de nous raconter à coups de gestes responsables et de résilience, elle convient parfaitement aux impératifs du néolibéralisme qui veut que chaque individu se prenne en main, qu'on suive notre chemin et qu'on se réalise pleinement. Et qu'on se réalise pleinement, bien sûr, à haut coût pour nous-mêmes, mais à faible coût le plus possible pour l'État et pour les patrons.
Ben oui, bien sûr.
Et si les conditions de notre monde étaient plus cruelles que ça, en fait? Et si nous étouffions sous la douleur de force qui nous dépasse calissement, dans le fond? Le roman de Kev Lambert nous permet de se plonger un moment dans cette manière-là de penser. Ni Jézabel, ni Querelle ne sont des personnages complexes, torturés par leur enfance, névrosés par leurs ambitions ou par papa-maman. Ce sont des travailleurs et des travailleuses exploités qui se mettent au devant de la fatalité qui est la leur. Slash, la lame de la guillotine. Les patrons embrochés, leur progéniture éliminée. Dans le roman de Kevin Lambert...
Beau projet.
Oui, c'est ça. C'est radical, disons.
On salue tous les patrons et tout ça.
Oui, toujours.
Ça, qui nous écoutent attentivement. Dès ce soir, ils vont aller sur le site pour réécouter l'émission.
Oui, je dirais religieusement.
Ah oui, oui, c'est oui. Ça. Peut-être en sacrant un peu, c'est ça que tu veux dire.
Oui, c'est ça. Dans le roman de Kev Lambert, aucune manière... Il n'y a aucune façon, en fait, de lier la violence qui est perpétrée par les personnages à leur petite souffrance individuelle, à leur névrose ou à leur personnalité torturée. C'est à leur destin, à leur classe sociale et au clivage insurmontable avec leur patron qu'on est sommé de se rapporter. On comprend donc la violence par rapport à ce clivage-là. On est confronté à la puissance écrasante et à la violence du capital qui divise et qui condamne les solidarités a priori. Puis « to be real », pousser cette logique-là dans les derniers retranchements de ses possibilités, ça fait vraiment du bien. Je ne sais pas si tu m'as entendu, Alain, il y a quelques secondes, j'ai fait référence à la guillotine.
Oui.
C'est pas anodin.
Oui, ça fait penser à quelque chose dernièrement qui est arrivé.
C'est mais ça.
Oui.
Un certain monsieur qui était fâché.
Oui, il y a quelques actualités, en gros, qui sont liées à la guillotine.
Exactement, Alain, comme tu sais sûrement, le 1er mai, les camarades... Oui. En fait, un petit projet artistique qui a été dénoncé grandement parce que, ben oui, comme on a vu, on doit surveiller les images qu'on utilise par les temps qui courent. Nous avons compris que la police aime bien enquêter sur les projets artistiques à saveur politique.
Oui.
Certains camarades l'ont appris à leur dépens.
C'est ça, les policiers, c'est les gens qui aiment l'art et la culture.
Exactement, comme nous, en fait. Mais bref, revenons au SPVM qui a décidé de partir une enquête sur la guillotine en papier mâché d'Alliance ouvrière et la mise en scène de pendaisons de poupées à l'effigie de criminels de guerre, alors que la SQ, de son côté, se demande si la photo des néo-nazis de Shawinigan est vraie ou bien truquée.
Ah,
deux poids, deux mesures.
Ben oui, hein? Eh oui.
Ouais. D'ailleurs, Alain, je vais me permettre de revenir à la pièce que j'ai vue cette fin de semaine.
Oui.
Comme Florence te disait, je suis allée voir l'adaptation théâtrale de Querelle de Robert Val. C'était vraiment très bon, mais je dois dire que la fin m'a un peu déçue. Pour bien expliquer mon propos, Alain, je vais devoir divulgâcher, donc fermez la radio ou faites beaucoup de bruit, ceux qui ne veulent pas le savoir. En fond, c'est que la fin du roman et celle de la pièce sont assez différentes et c'en est un peu troublant.
Curieux quand même. Hein?
Donc, voilà le divulgacheur. Dans le roman, les ouvriers et ouvrières finissent chez la famille Ferland et font un michoui à saveur patronale et les enfants ne sortent jamais de la piscine. Disons-le franchement, tout le monde crève et ou finit en prison. C'est trash et rien ne se résout. Malgré tout, cette fin fait du bien car elle nous libère le temps d'un livre de notre obsession à résoudre les problèmes, notamment par le dialogue. Les ouvriers et ouvrières dérangent pour vrai et elles calissent le bordel et entraînent tout le monde dans la mort. Il y a quelque chose de comique là-dedans et tu comprendras que ça nous a inspiré notre titre de chronique.
Ben oui.
Malheureusement, la pièce fait reposer sur les épaules d'un seul personnage cette fin tragique pour devenir le drame de Jézabel. Torturée par la mort de son amie Querelle, elle grille son patron sur le barbecue pour le servir ensuite aux autres ouvriers-ouvrières qui, eux, n'en savent rien. Fait qu'on voit ici la distinction.
Pas le danger d'être malade. Oh,
En tout cas, on passe, c'est ça, d'une célébration commune à un personnage qui...
Ouais.
Exactement. Fait que pour Pour dire franchement, moi, cette fin-là...
C'est décevant, ouais, peut-être possiblement,
ouais,
c'est ouais, ça.
Oui, exactement. Moi, ça m'a mis off, bien honnêtement. Décevant, c'est peut-être le bon mot en français. un peu comme PSPP et la classe communautariat politique qui nous rappelle de dénoncer les deux extrêmes après le Shawinigan Gate.
Ah ouais,
cette nouvelle fin de la pièce édulcore la tragédie qui nous avait servi Kev Lambert dans son roman.
Et pour venir justement à Shawinigan, là, c'est les partis politiques. Des fois, j'interviens.
Mais là, oui, non, mais vas-y. Là.
Entre autres, la CAQ, Mme Fréchette, puis PSPB. Oh, c'est épouvantable. C'est peut-être que le discours que vous entretenez sur la responsabilité des immigrants, c'est leur faute, c'est la crise du logement, c'est que les immigrants, c'est des criminels, tout ça. C'est un petit peu des fois, puis d'un coup, là, ils s'offusquent. C'est épouvantable. Là, j'ai un blasphème à toutes les deux secondes.
Ouais, on rappellera qu'un des néo-nazis de Shawinigan était avec Nouvelle Alliance lors de la Journée des Patriotes. Donc, on salue PSPP et ses amis de Nouvelle Alliance.
Bien sûr, on les salue! Oui!
Donc, pour revenir...
C'est pas de la radio, hein?
Ouais.
C'est excellent.
Donc, pour revenir à cette nouvelle fin, Alain...
Excuse-moi.
Mais non, vas-y. Moi, j'aime ça, tes interludes. Comme je disais, là, moi, cette fin-là m'a déçue, mais je suis assez certaine qu'elle a fait plaisir aux tenants du boltsidisme, puis, tu sais, aux gens de l'extrême-centre, comme Hélène Buzetti, pour ne pas la nommer. Au point qu'au théâtre, quand le rideau est tombé, ben le monde était incrédule autour de moi. Même certains se réjouissaient des multiples suites possibles aux événements de la pièce. Comme si le meurtre des proprios de l'usine laissait place à d'autres possibilités que la prison pour Jézabel et le chômage pour ses camarades. On tombe ainsi dans une forme de relativisme des responsabilités de chacun. Le destin du mouvement ouvrier ne prend plus la forme d'une vague qui se frappe fatalement sur un énorme récif où tout le monde trouve la mort ou la prison. Dans la nouvelle version de la pièce, il reste un avenir pour les collègues de Jézabel qui ont mangé un bout de patron et pour les orphelins ferlants. La thérapie saura les ramener sur le marché du travail. La rédemption productive, comme on dit.
Plein de belles possibilités pour ces belles personnes. Manon et moi, ça nous a intéressé ce changement de fin-là, vous l'aurez compris.
Ben oui.
Même si on sait rien là, des intentions réelles derrière ce changement-là, puis on peut pas se permettre... on peut quand même se permettre, pardon, de penser que la grosse tournée prévue pour la pièce allait avoir un autre retentissement public que le roman, qui a souvent une résonance un petit peu plus privée, ou en tout cas un moins grand déploiement. Il valait probablement mieux chopper la guillotine, si vous permettez la blague. Et c'est vraiment pas banal que même dans les fictions, puis même dans les performances publiques, on soit appelé à se retenir, de retourner la violence de ce monde et d'exposer toute sa puissance. Qu'est-ce qui fait que la fatalité fait l'objet d'un tel interdit? Réalisons-nous la moindre mise en scène que la moindre mise en scène tragicomique de nos conditions de vie et de nos rapports avec les puissants nous met carrément à risque de faire l'objet d'une enquête policière. Donc, tu disais tantôt que la police s'aime bien l'art, je pense qu'ils comprennent pas.
Ils comprennent pas grand-chose à l'art. Quand ils font leur cours avec Nicolet, il n'y a pas de parti là, sur l'art.
Non, c'est ça. le cours dramaturgie à Nicolet, ça m'intéresse.
Ben oui.
Mais déjà ça, ça en dit long sur la mainmise que se garde une classe dirigeante sur la fatalité de nos destins. On le disait d'entrée de jeu tantôt, on fait une chronique culturelle parce que les histoires, c'est important. Puis peut-être qu'on gagne à se demander qu'est-ce qui départage les histoires qu'on est légitime de se raconter puis celles qu'on n'est pas légitime de se raconter. Plus tôt cette année, quand les Robins des Ruelles ont dérobé la bouffe des riches pour la remettre aux pauvres,
il
y a un plateau de petits bourgeois complètement décollés à Radio-Canada qui se sont offusqués de voir leur beau scénario à la sauce philanthropique s'effondrer. Ils n'ont pas aimé voir les codes moraux qui les protègent flipper de bord et entrevoir d'autres futurs sans cave à vin là, se réaliser. Il y a tellement d'énergie déployée pour nous raconter la bonté des riches, pour donner à leur belle fondation le monopole de l'action morale. Selon la belle bande là, sur ce plateau générique-là à Radio-Canada, le monde ne devrait pas prendre la nourriture dont ils ont besoin. Il devrait plutôt baiser la main des philanthropes, saluer bas les actions humanitaires posées par les riches, qui ont bien travaillé en équipe avec leur équipe de com pour arrimer leurs affaires à leurs belles histoires. Et qui ont mis sur pied, évidemment, des fondations pour s'évader de l'impôt, qui distribuent la joie et des restants de bouffe à moitié pourris aux pauvres qui attendent en ligne.
Ouais.
Là, ça va être une drôle de transition, mais moi, j'écoute l'émission Les Chefs.
Puis moi aussi.
Ah oui? Ah. Pas moi.
Non.
Un petit peu debout, là.
Ben oui, c'est ça. Mais... au chef, là, on voit des gens cuisiner pour des milliers de dollars de produits qu'ils peuvent probablement pas se payer, d'ailleurs.
Sûrement pas, non, parce que, je regarde moi aussi de temps en temps, je vois la fin, là, puis je dis, bon...
ouais, c'est ça.
Ils font pas la même épicerie que moi, là.
Non, vraiment pas. Je vois aussi des vieux chefs pleins aux os, là, parler du respect des produits, oui. puis réclamer plus de sauce. Et je vois surtout la production se féliciter, enfin, de certaines des émissions, d'aller porter les restants aux pauvres.
Ah, que c'est fin.
Comme ça, Joe boit à lunch à la maison, il doute pas que quelqu'un, quelque part, prend bien soin des démunis, et tout le monde roule sa bosse, les vaches sont bien gardées, et les jeunes chefs se voient donner des opportunités, des occasions de se réaliser pleinement, pour les plus vaillants, là.
Ouais, et des bourses aussi.
Oui, effectivement, des petites bourses.
Ouais, quand même.
Et ils se voient aussi l'occasion de se raconter à travers leurs plats. Ça, c'est pas banal, hein, ouais. mais au chef, on apprend que les repas, ça raconte de grandes histoires, que les familles traversent les repas, qu'on peut raconter sa vie à travers une recette. Tout ça pour dire qu'il faudrait pas gâcher ces histoires-là. Il faudrait pas, par des grands gestes, rendre caduques et indignes les solutions des philanthropes ou les belles histoires dans les émissions de TV. C'est quoi donc les autres histoires qu'on nous raconte à télé d'ailleurs? Selon mes humbles observations, c'est beaucoup celles du monde qui se sont donc pris en main, ou celles du monde qui le font pas, mais qui déçoivent au passage leurs proches. C'est aussi, comme au chef, beaucoup, beaucoup de compétitions.
Oui.
Des compétitions à travers lesquelles les gens sortent de leur zone de confort, vont au bout de leur passion, s'éliminent les uns les autres, ça c'est important.
Ben oui, parce que c'est celui ou celle qui va gagner. Hein.
Au plus fort la poche, hein,
exactement,
comme on dit.
C'est ça.
Attention par contre, tout le monde là-dedans est censé être aussi fier de perdre que de gagner. Juste être là, c'est déjà beaucoup, mais il y a toujours une leçon à apprendre de toute manière, toujours une péripétie à ajouter à votre grande aventure individuelle dans les histoires qui sentent le sacro-saint soi. Mm. Mais que se passerait-il si on était complètement unhinged? Si collectivement, on se donnait toute la puissance pour résister à ces forces qui nous gardent dans les limites, des limites à l'intérieur desquelles on reste des citoyens, des personnes correctes et honorables, ou au pire, là, des personnes en voie de s'améliorer qui ont une bonne volonté. Est-ce que si on faisait ça collectivement, ça culminerait comme dans Querelle de Roberval, en bataille sanglante avec les gestionnaires d'immeubles, par exemple, sur le terrain de balle au Parc Victoria? Est-ce que ça finirait en méchoui des proprios dans les grosses baraques autour du même frais? Est-ce que cette fatalité-là, qu'on a à peine le droit d'évoquer, là, tu sais, qu'on a la voix qui tremble quand on l'évoque, est-ce que cette fragilité profonde de notre existence, c'est pas le cœur de ce qui permet à certains de s'arroger le pouvoir d'exploiter les autres? Kev Lambert a au moins le mérite d'avoir amené notre imagination vers le...
Ah oui, c'est vraiment, moi, quand je l'écoutais, tout le monde en parle, là. C'était vraiment, là... cette émission-là aussi met en valeur aussi la gauche, là, aussi.
Ben oui, c'est ça, non, c'était...
Ça fait penser que Mario Dumont serait peut-être été une autre question.
peut-être. Mais tu vois, j'ai confiance que le message aurait pu passer.
Quand même, oui.
On remercie aussi Kev Lambert de nous avoir donné l'occasion de se poser certaines questions. Querelle de Roberval, ça fait en sorte de nous rappeler l'ampleur des forces qui gardent nos espoirs petits et nos plaisirs personnels. Le livre nous rappelle ce qui freine inlassablement les initiatives collectives, le rouleau compresseur du pouvoir, dans le fond, la fatalité. Et ça nous fait nous interroger. Qu'est-ce qu'on cherche finalement à protéger? Peut-être pas ce que les histoires poches à Radio-Canada mettent au centre de l'attention. Peut-être en fait que ce qu'on voudrait protéger, c'est pas nos égos et pas nos beaux gros soi. Peut-être que c'est notre pouvoir, notre humanité et notre force collective. Mais enfin, reste que juin, c'est un bon mois pour boire un petit slotch.
Oui.
Puis on s'en privera pas non plus.
Ben oui. Puis des fois d'autres choses de frais aussi.
Oui, effectivement. enfin, là, il y avait quelque chose qui suivait ma petite envolée, c'est-à-dire une invitation que Manon voulait vous passer.
Oui, l'invitation est un peu thématique parce qu'elle vient à la base de SPE et je le sais qu'ils sont tes prochains invités.
Oui.
Donc, l'invitation va comme suit. Le 8 juin prochain, soit lundi prochain, de 10h à midi, il y a un contingent populaire solidaire qui s'organise avec les grévistes de l'usine American Buildtrip. Syndiqués CSD. En fait, ils sont en grève générale illimitée depuis le 24 mai de 23h. C'est vraiment un rendez-vous au 200 rue Bank Sherbrooke dès 10h. Mais attention, lundi prochain, n'amenez pas vos broches de méchoui ni vos proprios en papier mâché parce que le SPS vous regarde.
Oui.
Et il trouve que vos jokes sont pas mal louches.
Oui, hein?
Ouais. Et puis, disons-le, personne ne veut vivre la honte d'être désapprouvé publiquement par Ruba Gazal et le reste de Québec solidaire pour une petite pièce de théâtre public. Donc, soyez avertis.
Et on parlait tout à l'heure de nourriture pendant la pièce musicale, à la pause, et leur cueillir, qui va rejoindre à nous. Vous restez avec nous
Oui, quelques minutes.
Oui, au moins quelques minutes.
OK. Et puis, c'est ça, parlant de nourriture, vous avez peut-être pu voir les voyages de M. Carney.
Ah, voyages?
Oui, ces voyages. Trois voyages en avion, en repas, pour trois voyages, 200 000 $
Oh! Il y avait une bonne fin.
Les sandwichs sont bons. Hein?
Oui.
Puis, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps d'imprimer, là, mais ils donnaient le menu qu'il y avait. Là. C'était pas de la soupe de soeur, qu'on appelle.
C'était pas cheap, comme on dit.
Ah non, c'était pas cheap.
C'était pas de la soupe à l'eau.
Non, pas du tout. Mais tu sais, il reste que ça c'est un peu. Ça n'est des choses qui fâchent, là.
Oui.
Tu sais, les gens disent de l'argent pour les pauvres, là. Le décompte, là, je reviendrai probablement la semaine prochaine là-dessus parce que ça m'enrage le nombre de repas qui pourrait être donné à des gens. Mm-hmm. 200 000 pour trois voyages, que ça gagne. Là.
Ouais.
Puis quand c'était dénoncé, il y avait le ministre Leblanc qui souriait. Tu vois ça drôle.
Mais c'est ça, hein, ça fait pas juste nous déranger, ça a l'air d'être fait pour nous déranger.
C'est ça. Donc quand vous faites vos réunions au CHIP, c'est à peu près le budget que vous avez pour votre repas, ça. Là.
Si seulement.
Si seulement. Mais on mange toujours à notre faim.
Oui.
On est quand même chanceux.
Pièce musicale que vous avez choisie?
Oui, une chanson des René Binamé qui, je pense, donne un peu le ton, ou en tout cas reste dans l'esprit de la chronique qu'on vient de faire.
Alors, on s'en va là-dessus. À la pause et on revient avec Pascal aussi de Solidarité Populaire Estrée.
À qui lui porte la haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne.
Nom de Dieu.
Je veux parler sans gêne. Qu'aucun filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille.
Qu'aucun filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille.
Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir, je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille.
Nom de Dieu.
Et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense.
On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense.
Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la France sans Dieu. Nous crevons d'abstinence.
Nom de Dieu.
Nous crevons d'abstinence. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces progresses.
Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces progresses.
Au vicaire, le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse sans Dieu. Se faire ploter les fesses.
Nom de Dieu.
Se faire ploter les fesses. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire.
Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire.
Coupe les curés en deux, nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et bon Dieu dans la merde.
Nom de Dieu.
Et bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves.
Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves.
Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne.
Nom de Dieu.
Mérite la lanterne. Mérite la lanterne.
Il est midi.
28 minutes.
Le rock progressif, c'est de la musique pas pire pantoute. C'est pourquoi Chris Brown, je vous invite à une session d'écoute chaque mercredi soir de 19h à 22h. Vous pouvez nous retrouver à l'antenne de CFLX 95.5 Estrie et sur le site de cflx.qc.ca pour l'émission Hockey Boomer. Comme pour les albums de Tintin, tous les auditeurs de 9 à 99 ans sont les bienvenus. C'est un rendez-vous maintenant, les mercredis à 19h.
Sport Estrie. Deux heures de nouvelles sportives locales. Pointage, classement, commentaires. Tout ce que vous voulez savoir sur l'activité sportive de notre région.
Touchdown! Let's get ready to rumble!
Sport Estrie.
Ici Michael.
Ici Nicolas.
Ici Michael.
Ils animent Sport Estrie. Le lundi de 18h à 20h sur CFLX 95.5 FM.
Ici Steve Bergeron.
Vous vous êtes ennuyé de l'actualité générale à votre radio communautaire? Vous trouvez qu'on ne parle pas assez de certains sujets ou de certains coins de votre belle région? Alors soyez au rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis à 8h pour nos toutes nouvelles capsules info CFLX. Pour vous, nous allons nous attarder sur les nouvelles qui ne font pas souvent les manchettes, mais qui ont quand même des impacts dans votre communauté. Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer les lundis, mercredis et vendredis à 8h, Capsule Info, CFLX.
Pas pire audacieuse, CFLX 95.5 FM.
Et oui, cette identification pas pire audacieuse va bien avec les chroniques qu'on a avec c'est cheap, hein? Ça prend de l'audace.
On essaye de faire preuve d'audace quand même.
Vous réussissez bien.
C'est gentil.
Oui, c'est pas mal bien. Et bien sûr, pour se joindre à nous aujourd'hui, Pascal Florent de Solidarité Populaire Estrie. Salut Pascal.
Salut tout le monde.
On va demander que Solidarité Populaire Estrie sorte tout l'été. En manif, il fait beau toute la semaine depuis lundi.
Parfait. Ben si c'est une demande officielle, on va le faire.
Parce que ça donne comme ça qu'il y a justement du beau temps depuis lundi. Vous allez au palais d'injustice, comme tel. Sûrement pas à cause des belles fleurs ou de la police qui est là. Il y a une raison bien précise.
Oui, ben en fait, tu l'as bien mentionné, ça tombe bien qu'il fasse beau. Depuis lundi, dans le fond, tous les jours cette semaine, de midi à 13h, on est plusieurs organisations là, de défense collective des droits qui se rassemblent devant le palais de justice pour demander là, le retrait du projet de loi 1, donc le projet de la loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, qui est un projet là, de la CAQ là, dans la série de tous les projets de loi qu'ils ont fait en bloc. Là. Puis dans le fond, on fait un petit blitz, si je peux l'appeler ainsi, parce que on a des échos comme quoi qu'il le projet de loi pourrait passer sous baillon d'ici le 12 juin.
Ils feraient ça, toi?
Ça serait leur 9e projet de loi sous écho. Battre un record, pourquoi pas? Hein?
Ben oui, mais je veux dire, tant qu'à finir ton mandat, là, tu le finis c'est avec ça. Un record. Hein?
C'est des gens de performance.
Ils vont faire un bichou, eux autres aussi.
Oui, donc c'est ça. On essaie de récolter des signatures. Là. Il y a une signature qui circule en ligne là, sur nos réseaux. Puis sinon, si vous voulez la voir en personne au palais de justice de midi à 13h demain, on va être encore là. Dans le fond, c'est pour faire signer là, une lettre là, qui demande justement le retrait du projet de loi constitutionnelle 2025 sur le Québec. Pour d'innombrables raisons, il y a au-dessus de 800 organisations signataires qui font la promotion. Oui, ça attaque autant les individus que pas mal toutes les organisations. Et ce qui est critiqué beaucoup, là, c'est son caractère antidémocratique. Là.
Si on regarde un petit peu, ça peut toucher quoi, entre autres, ce projet de loi-là, parmi les libertés qui sont brimées? Il ferait jamais ça, là, mais je dis ça de même.
Bien, d'emblée, pour mettre le projet de loi en contexte, c'est vraiment son processus à la base qui est illégitime. Ce que beaucoup d'organisations de défense collective des droits critiquent, dans le fond, le projet de loi 1, dans le fond, c'est la Ligue des droits et libertés qui mène ce dossier-là ici au Québec. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de mémoires, d'articles, de lettres d'opinion. Ils ont envoyé une lettre à Christine Fréchette. Et ce qu'ils disent, dans le fond, c'est que le projet de loi numéro 1 a été élaboré derrière des portes closes et sans consultation publique en amont.
Dans son salon.
Dans son salon. Et ce qui est intéressant, c'est que les critères établis par le droit international prévoient que la rédaction d'une constitution doit se faire dans le cadre d'un processus ouvert permettant la pleine participation de la société civile et de l'ensemble de la population. L'absence de consultation large et inclusive pour la préparation de ce projet de loi fait en sorte que celui-ci n'a aucune légitimité politique et démocratique. C'est pourquoi il doit être rejeté en bloc. Donc ça, c'est la prémisse. Même le processus de se doter d'une constitution au Québec est remis en cause. Et ce qui est important de mentionner aux auditeurs et aux auditrices, c'est qu'on ne remet pas en question le droit du Québec de se doter d'une constitution. Non. C'est juste que ça doit être fait de manière démocratique avec un processus qui doit être bien fait là. Puis sinon, qui sont les organisations en fait?
Oui.
Pourquoi après ça, dans son contenu, qu'est-ce qui est problématique? C'est extrêmement large les oppositions. Là. Ça passe des peuples autochtones qui sont juste complètement invisibilisés puis assimilés, même je dirais, dans ce projet de constitution.
Le chef l'a dit, on est venu, mais on n'avait pas d'invité. Bon, on était bien reçus. Hein? Ouais.
Puis sinon, ce qui nous intéresse, nous, à Solidarité Populaire Estrie, c'est le musellement des contre-pouvoirs, dans le fond. Dans ce projet de loi-là, on restreint, dans le fond, les organisations qui sont financées à même des fonds publics de contester le pouvoir. Okay. C'est-à-dire que nous, Solidarité populaire Estrie, par exemple, on est un organisme de défense collective des droits. On fait un petit peu la vigile de, oui. la vigile de certains projets de loi, de certains droits qui vont être bafoués. On fait la promotion de justice sociale. Bien là, ça serait flou savoir si on pourrait continuer notre mission. Parce que dans ce projet de constitution-là, ça dit que les organisations qui sont financées par les fonds publics, comme nous, on n'aurait pas le droit de contester puis de remettre en question le dit gouvernement.
Alors, quand il disait « ne pas mordre la main qui nous nourrit », là.
Ah là, ça serait stampé dans un ouais, projet
que,
de constitution.
Parce que je vais mettre ça à quelqu'un d'autre, à l'association de Gavère ou autre chose, on mord, hein, puis le chef vous mordez en sacrifice d'autres aussi. Là.
Il n'y a pas beaucoup de mains qui nous nourrissent, par exemple.
Non, mais, non, mais vous mordez bien aussi. Là. Non, mais il reste que ça c'est... Parce que ça avait surpris... Il était venu des gens du Mali. On sait qu'au Mali, la liberté, comme plusieurs pays en Afrique. Mm-hmm. Puis il était surpris de voir qu'on était financés, les groupes, mm-hmm. par le gouvernement, puis qu'on chialait après. Il avait dit, vous mordez la main qui vous nourrit. Ben oui, on mord.
C'est en effet, c'est quelque chose d'unique, là, à ma connaissance, oui. en Occident. Là. Le milieu communautaire au Québec en tant que tel, on le trouve pas aux États-Unis, on le trouve pas au reste du Canada.
Surtout de ce temps-là, non?
Je crois pas non plus en Europe. Tu sais, vraiment, avoir des organes indépendants, autonomes, qui sont financés à même le gouvernement pour mener à bien leur mission qui vient directement de la communauté, c'est ça la beauté du milieu communautaire ici au Québec. Puis la Défense collective des droits, qui recense environ 400 organisations au Québec, ben c'est vraiment un vecteur de contre-pouvoir qui s'assure d'une bonne tenue démocratique et d'une justice sociale la préserver au Québec. Puis là, ce projet de loi-là vient mettre ça complètement à terre. Puis, il faut le mentionner, le projet de loi 1 de la loi constitutionnelle du Québec de 2025, c'est un projet de loi parmi tant d'autres.
Ah oui.
Les projets de loi qui s'attaquent au contre-pouvoir, que ce soit au milieu communautaire, étudiant ou syndical, on parle justement, on remet en question la formule RAND, on remet en question ce qui est vrai, ce que j'ai mentionné pour les organismes communautaires dans le projet de loi 1, c'est vrai aussi pour l'organisation syndicale.
Qui
pourrait plus maintenant avoir des projets sociaux en dehors de leur convention collective si avec les cotisations de leurs membres. Donc, tu sais, c'est tout ça qui cherche à museler les contre-pouvoirs, puis ça s'imbrique dans une dynamique en ce moment qu'on remarque à l'international de vouloir vraiment contraindre et museler les gens qui nous critiquent.
Ouais.
On voit plusieurs, pas juste le gouvernement en place, là, mais plusieurs partis aussi au Québec comme ça qui prennent cette tendance-là de ne pas tolérer la critique, et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux.
Effectivement. Donc, c'est beaucoup de choses qui arrivent. Puis, justement, dernièrement, on parlait tout à l'heure de la guillotine. Il y a certains ministres, justement, du travail, qui étaient en beau maudit, mais il reste, tu sais, c'est ça, là, toute la liberté qu'il y a, la façon aussi, même que la police intervient aussi, là, depuis un certain temps, comme tel, là. Mm-hmm. Ça ressemble à du Duplessis 2.0. Là.
Ouais, le pouvoir à l'épiderme sensible, mettons.
Oui. Mettons, moi, j'ai connu la fin de Duplessis, là, puis la liberté n'était pas très forte, là.
Non, puis ce qui me fait penser, je partageais quelque chose. Nous, à Solidarité populaire Estrie, on tient les mobilisations du Jour de la Terre depuis maintenant plusieurs années.
Oui.
Et ça a été la première édition que je dirais qu'on a eu des complications avec le service d'ordre de la ville de Sherbrooke.
Cette année,
oui. Ouais, ça a été assez agressif. Avant même le début de la journée, on s'est fait appeler par la personne responsable pour se faire menacer, en fait, que si jamais notre itinéraire passait près de la banque CIBC, il allait arrêter la manifestation puis les individus qui s'y trouvent. Mm-hmm. Donc là, maintenant, la police se dotait le droit là, de décider de notre itinéraire, ce qui est en fait, complètement illégal au sens de la loi. Là. Selon la charte constitution canadienne, on a le droit de manifester et on a le droit de choisir notre itinéraire. Donc, ça partait très bien la journée. Ensuite, sur les lieux, je dirais qu'il y avait plus de policiers et policières que de personnes.
Même quand je suis arrivé, il y avait déjà 4 chars de police, 8 policiers et policières, là, comme tel. Et puis, il y avait un drone.
Un drone, oui. C'est leurs jouets qui sortent maintenant dans les manifestations.
Et on rappelle qu'il y avait beaucoup d'étudiants de secondaire. Mm-hmm. Fait que, ouais. C'était une manif qui était principalement composée d'étudiants de secondaire. Je ne veux pas invisibiliser le milieu communautaire, là, mais c'était aussi frappant là, les policiers qui regardaient les
enfants. Quand il est arrivé aussi le moment où Mère au front voulait installer leur kiosque, le policier est arrivé là, de façon très autoritaire. Mm-hmm. Il dit, vous allez être 300, là. Fait que moi, j'ai dit en face, j'ai dit, un des organisateurs, à 299, c'est correct. Mais, ça démontre une chose, là. C'est le marché de la gare, mm-hmm. aussi, qui est un lieu public, en principe, là.
Oui.
Tu sais, la journée-là, puis on pourrait en nommer d'autres aussi quand Mme Fréchette est venue faire son épicerie, aussi. Mm-hmm. Et comment la police a agi aussi, là.
Oui, bien, on voit que, tu sais, je trouvais ça un vraiment bel exemple, le jour de la Terre, parce que, tu sais, comme ça a été mentionné, une chance que les jeunes du secondaire étaient là.
Oui.
Une chance, ça a fait en sorte qu'on était un bon nombreux. Et ce que la police a décidé de faire, c'est de protéger un symbole de pouvoir qui est une banque.
Oui. Mm-hmm.
Et d'intimider les organisateurs et les organisatrices de la marche, de l'événement, et aussi de un peu brimer ce droit de manifester là pour une nouvelle génération de gens que c'était leur première expérience.
Exactement. Mm-hmm.
Mais ce qui était important cette journée-là, c'était de protéger la banque CBC, alors qu'il n'y avait aucune menace envers CBC, là, on va
rappeler. Non,
c'était le jour de la Terre.
C'est ça, il n'y a pas de danger.
Mais c'est ça. Donc, on voit la priorité du pouvoir, on voit la priorité du service d'ordre, mais surtout, on voit que dans cette journée-là, qu'on est supposé être une journée de parler de la justice environnementale, oui, mais à condition que vous êtes certain de ne pas toucher une banque.
Ouais.
Je vais laisser ça là-dessus.
Non, c'est ça. Et toujours dans ce projet de loi-là, il y a d'autres choses aussi sûrement qui sont touchées comme telles aussi, là.
Oui, bien là, c'est ça. Moi, j'ai vraiment plus le secteur défense collective des droits, là, que ce qui nous inquiète, c'est vraiment, dans le fond, l'utilisation du financement public qu'on serait plus à bien mener notre mission. J'ai parlé aussi, dans le fond, de l'invisibilisation des secteurs autochtones.
Oui.
Sinon, je crois qu'il y a aussi beaucoup de... Ce sera pas long, je vais aller chercher le paragraphe.
Ben, en fait, je peux peut-être venir aider un peu Pascal. Là. C'est que vraiment, ce projet de loi-là, à la base, il vient vraiment aussi renforcer le pouvoir du gouvernement puis de l'Assemblée nationale. Il vient, je dirais, élargir la possibilité de déroger aux chartes des droits et libertés. Puis il vient aussi remplir toute une nouvelle façon de reconnaître le Québec, mais qui vient un peu invisibiliser, que ça soit les Québécois qui parlent anglais, les Autochtones qui ne se disent probablement pas Québécois. Ça vient invisibilité forme d'autres façons de personnes qui vivent sur le territoire québécois, mais après ça, ils viennent dire, ben c'est quoi le bon Québécois aussi? C'est des gens qui parlent français, c'est des gens qui... Puis après ça, ils viennent lier ça au territoire, donc là, on peut aussi se poser des questions sur, OK, donc là, le territoire, c'est pour les Québécois, ils parlent français, donc il y a aussi vraiment une façon de venir un peu détourner, puis je vous dirais comme invisibiliser d'autres populations puis d'autres peuples là, qui vivent sur le territoire dit québécois.
Ouais, ben oui, dans la foulée de ce que disait Manon, c'est vraiment la réalisation d'un projet qu'on voit se construire au Québec depuis 15-20 ans, là, c'est-à-dire cette idéologie-là républicaine du Québec, où l'État serait, dans le fond, le représentant de la population. Mais on parle d'une population en particulier, puis ça, c'est vraiment calqué aussi sur le modèle français, c'est l'idée d'un État fort, qui représente justement un peuple. Puis là, ben Manon l'a très bien expliqué de quel peuple on parle ici. Puis je pense que la CAQ, Simon-Jolin Barrette en premier, et le PQ partagent là, cette conception républicaine-là. Ben oui. Des groupes de pression aussi qu'on connaît à Sherbrooke partagent cette conception-là. Puis en fait, c'est des gens qui ont conscience de la puissance du droit puis de l'importance d'aller chercher le pouvoir d'État pour se réclamer là, d'être un peuple... Puis c'est ça, invisibiliser les autres et écraser les autres.
Puis je me permettrais, avant de repasser la parole à Pascal, tu sais, là, il ne faut pas se leurrer aussi. Là. Si la CAQ adopte ça sous Bayon, puis que le PQ passe cet automne, le PQ va garder ce projet de loi-là. Là.
Ah,
toutes
oui?
les gens qui ont backé en commission.
Hey, je suis tellement surpris d'entendre ça.
Mais tu sais, parce que là, les autres, ils jouent leur pièce de théâtre pour rester dans la chronique culturelle.
Oui,
les députés du
ça.
PQ font leur petite pièce de théâtre pour dire qu'ils sont contre, là, mais sachez-le, les membres du Parti québécois sont très favorables à ce projet de loi-là, même que plusieurs, puis on les connaît, sont allés le défendre à l'Assemblée nationale lors des consultations particulières. Fait soyez pas surpris, le PQ va la garder, cette constitution-là.
Mm-hmm. Oui.
Merci, j'aurais pas pu mieux le dire. J'ai cherché justement la citation de la Ligue des droits et libertés qui résume vraiment ce que vous venez de dire. Là. Dans le fond, le projet de loi numéro 1 repose sur une fausse opposition entre les droits et libertés des personnes et des minorités, d'une part, et la protection des droits collectifs et de la nation et des prétendues valeurs québécoises.
Mm-hmm.
C'est vraiment ça. On est vraiment dans un élan là, de créer une dichotomie entre une partie de la population à une autre. Tout le discours bouc émissaire envers les personnes migrantes. Tu sais, le droit au logement, pourquoi on n'a pas assez de logement, c'est à cause des personnes migrantes.
Ben oui,
on connaît tout le discours en ce moment.
C'est ça, ben oui.
L'instrumentalisation, ça en fait partie là-dedans. Ce que je tiens vraiment important à souligner, c'est que parmi toutes les personnes qui contestent ce projet de loi-là, on parle aussi de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, là, la CDPDJ, mais il y a aussi des observations finales au Canada que le Comité des droits de l'homme des Nations unies ont contesté ce projet de loi-là.
Quand même, non, c'est pas...
L'ONU conteste ce projet de loi-là par son caractère démocratique. Là. Donc, c'est quelque chose d'assez important.
C'est pas peu dire. Mm-hmm. C'est pas des groupes là, pas connus. Là. Il reste que... Puis René Barrette continue à avancer. Là. Ouais.
Puis c'est pas la première fois que l'ONU s'intéresse à certains projets de loi au Canada, au Canada peut-être, mais au Québec surtout. Et je crois pas que c'est quelque chose d'être fier. Tu sais, quand on parle de Québec fier, là, en ce moment...
Effectivement. Ça fait quand même un bout, là, qu'il y a une certaine élite au Québec qui nous garde, là, dans cette spirale-là. Là. Tu sais, on retourne à la charte des valeurs, ça fait longtemps qu'on nous tape le clou, puis qu'ils se transforment, mais là, ils ont réussi quand même à s'implanter gravement, là, puis bref, on espère pas de baillon.
C'est ça. Il y a un projet de loi qui a été abandonné.
Oui.
Projet de loi... 40?
Je me... Ben, c'est celui
20,
sur les...
20,
20 ouais, excusez. 20. J'étais dans le multiple, là. 20.
Sur les coopératives. C'est pas un projet de loi que je connais très bien, mais je sais qu'on a beaucoup d'alliés là, qui l'ont contesté d'emblée, là, notamment l'Association des locataires de Sherbrooke.
Oui, Banque Frappery, ce matin, l'annonçait sur sa page, évidemment, en espérant, entre autres, que le 1er juillet, qui est la fête canadienne du déménagement, québécois du déménagement, mais il reste bon. Ce projet de loi-là, encore là, venait justement pas régler le problème, tout comme le projet de loi 1. Règle pas de problème. Tout ce qu'il fait, il en crée des problèmes. Il enlève des libertés qui ont été gagnées. Il faut bien se le rappeler, là, je parlais de Duplessis, là. Il y a eu des batailles là, comme telles. Puis là, aujourd'hui, on tournerait comme en arrière.
Oui. Ce que là, je m'excuse à la personne qui l'a dit. Là, j'ai vu dans les médias aujourd'hui quelqu'un vous dire oui, c'est important de se réjouir que le projet de loi 20 soit retiré, mais qu'il y a quelque chose de triste que ça soit ça qui nous réjouisse en ce moment.
Ouais.
Parce que c'est pas un gain, c'est juste un retrait de projet de loi complètement horrible.
Puis ça veut pas dire que le parti qui reprendrait le pouvoir décide pas de revenir avec, là.
Non, définitivement pas.
Ah. Non, puis ça a ouvert aussi sur un discours, on en parlait il y a quelques chroniques avec toi, Alain, là, sur où on parlait de logement abordable puis de logement social. Là. Ça a ouvert aussi tout ce discours-là sur l'association entre les coops et le logement social. Il y a tout un... Au niveau du discours public, on a déplacé un petit peu la conversation, puis ça partira pas avec le projet, là.
C'est ça. Puis ça règle pas non plus le problème de la crise du logement.
Non.
Il y a pas de... La nouvelle ministre, je sais pas, là, ils l'ont sortie de je sais pas où, là, mais c'est pas elle qui... Elle apporte rien de nouveau, là, fait que, comme telle. Donc, ça veut dire que cette semaine, ça sera demain jusqu'à demain, elle est présente avec les groupes, là, comme telle. Il y a eu cette semaine aussi le communautaire à bout aussi qui s'est réuni au centre-ville. Ça a bougé pas mal cette semaine?
Oui, ça l'a bougé. Puis sinon aussi, lundi prochain, là, on organise du covoiturage. Là, ben, on organise la CDC de Sherbrooke, là, la Corporation de développement communautaire. Il y a une manifestation à Saint-Constant devant les bureaux de Mme Fréchette.
Oui, hein?
Plusieurs organisations du Québec en entier vont se déplacer là. Nous, on organise du transport à Solidarité Populaire Estrie. Il reste une place dans ma voiture, si jamais vous voulez.
OK.
donc oui, là, ça va être une belle manifestation là devant pour continuer à maintenir la pression, parce qu'on sait que durant l'été, souvent, il y a des pauses. Ben justement, le 12 juin, c'est la fin des travaux parlementaires. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas continuer, nous autres, à s'organiser collectivement pour mener à bien le contre-pouvoir aussi. Là.
Et pendant de lundi, justement, il y avait une action qui était annoncée. Oui. Et finalement, ben là, c'est...
Oui, j'ai pas toutes les informations malheureusement partagées. Dans le fond, on avait une action de solidarité avec les travailleurs en grève, mais notre contact là, à la CSD nous a dit que la grève est terminée. Donc, cette action de solidarité-là n'aura pas lieu. J'ai pas encore les informations sur quelle modalité là, la grève s'est terminée. On espère, par exemple, qu'ils ont gain de cause, là.
Alors, Megan Boutry, qui est en grève générale illimitée depuis le 27 mai, Le 24 mai plutôt, mm-hmm. comme tel. Alors donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Fait que, donc, la mobilisation peut se... Parce que c'était lundi aussi.
Oui, c'était lundi aussi.
En même temps que,
ouais.
que Saint-Constant.
Oui, de 10h à midi qu'on faisait ça, mais finalement, ça n'aura plus...
Et pour Saint-Constant, le départ se fait de Sherbrooke à...
Ça fait de 8h15. Puis okay. on revient vers 16h.
16h, OK. Ouais. Parfait. Donc, Mme Fréchette, elle va peut-être vous préparer un barbecue.
Peut-être.
J'aimerais ça.
Oui, t'as le même barbecue que tout à l'heure.
Vous partagerez des photos de votre zone de liberté d'expression oui. aussi. Ça, c'est un autre beau leg de la CAQ.
Mm-hmm.
Protéger les élus au point d'entasser les manifestants dans des petites cages à poules.
Mais ça a été, justement, j'étais là ce lundi-là, du magasinage. Là. Encore là, vraiment, on était traités comme les moins que rien.
Oui. Ça m'a fait penser à plusieurs... Je pense que c'était le G7 à Québec, c'était ça? En tout cas, il y a un des grands rassemblements, sommet des puissances en Occident. Il y avait eu un sommet de ça à Québec, là, je pense, 8 ans. On avait justement une belle petite zone de liberté d'expression là, dans une cage que j'appelle, là, c'était des grosses clôtures. Puis il fallait rester dans cette zone-là. C'était notre lieu prédéterminé pour pouvoir contester le pouvoir. Mais là, c'est rendu que même nos petites actions spontanées, on a des petites zones de liberté d'expression.
Parce que maintenant, on s'est ramassé sur le trottoir, finalement. Là. C'est ça. Il y avait un petit bout de terrasse mm-hmm. là, devant mm-hmm. le Provigo, mais on dit aller sur le trottoir. Puis comme on disait tout à l'heure, c'est ça, là, cette liberté d'expression-là, faisait qu'il y avait... les gens qui faisaient la épicerie ce matin-là n'ont jamais vu aussi bien protégés pour aller faire leur épicerie. Mm-hmm.
Mais ce qui est important de mentionner, c'est que ils ont tort de nous restreindre comme ça dans,
ben oui.
dans notre liberté d'expression, dans notre droit de manifester, dans notre droit de contester le pouvoir. Ils ont tort. Et on a des droits. On peut s'en prévaloir. Il y a justement la Ligue des droits et libertés qui a une série de vignettes sur le droit de manifester.
Oui.
Il y a le service d'aide aux communautés de l'UQAM aussi qui ont des super, super, super bons documents d'analyse sur le droit de manifester. Toutes les lois aussi municipales qui sont dites anticonstitutionnelles ici à Sherbrooke, on en a justement sur le droit d'affichage et des choses comme ça. Il y a plusieurs organisations au Québec. Là, il y a le GIUS, le COBP, Collectif opposé à la brutalité policière aussi, qui fait un super bon recensement là, des enjeux de droit de manifester, de surprise, leur vignette surprise, on a des droits. Donc, il y a des super beaux outils. Puis là, en ce moment, on voit que le pouvoir est très, très frileux de nous laisser nos droits. Mais ouais. Je pense que c'est le moment de justement partager cette information-là parce que toute une nouvelle génération qui n'a pas nécessairement connu les grandes luttes sociales que d'autres générations ont connues. Puis c'est important de partager ce savoir-là.
Mm-hmm. Et justement, hier, je suis allé au lancement du livre de Françoise David. Et t'es surprise, hein, parce qu'elle a dit qu'elle voterait pour Québec solidaire aux prochaines élections.
Très conséquente, quand même.
Alors, mais ce qu'elle disait, justement, se tenir debout, une grand-mère de 5 petits-enfants, puis moi aussi, puis toi, vous avez des enfants aussi, un peu part.
Pas moi.
Non, mais pas de petits-enfants, là, parce que sinon, vous seriez grand-mère et grand-père jeune, là. Mais il reste que, pour les générations futures, ce qu'elle équivalent là-dedans, se tenir debout pour les générations futures, parce que, effectivement, l'avenir est pas... Quand tu vois tout ça, puis le 1er mai aussi, la même chose, pendant la manif, la police qui part sa sirène pour enterrer mm-hmm. Les slogans, tu sais, c'est... Comme tu as dit, c'était vraiment, là, on a vraiment, cette liberté d'expression va aussi avec un projet de loi comme ce qui est sorti avec Joëlle Barrette.
Mm-hmm. On est dans une, je pense qu'au début de tous ces projets-là, on parlait de dérive autoritaire, mais là, je pense qu'on est dans une phase autoritaire. Comme...
Oui, 100%. Puis c'est ici et maintenant qu'il faut partager les risques puis assumer la complicité les uns envers les autres. Il ne faut pas attendre d'être protégé par le pouvoir. Il faut se protéger entre nous puis prendre des risques plus qu'on a été habitué à le faire, peut-être.
Et bien sûr, Solidarité populaire Estrie va être actif pendant la période électorale. Prendre des petites vacances un peu, là, se faire un barbecue. Mais déjà, il y a le comité élection qui se met en marche.
Ouais, ben ça, on va faire un long barbecue tout le mois de juillet, puis après ça, on va revenir en force et bien énergisé.
Et pour faire cuire les candidats.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, comité élection, on a déjà eu notre première rencontre. On va bâtir et lancer un guide de justice sociale en période électorale. Parce que on a changé un peu notre approche au cours des dernières années là, de notre comité élection. Avant, on faisait une tournée des candidats-candidates, on allait chercher leur engagement en lien avec nos missions, et ainsi de suite. Puis honnêtement, pour le dire simplement, ça servait à rien. C'est des cassettes, on n'allait rien chercher de tangible.
De bien raison.
Donc maintenant, on instrumentalise à notre tour leur période électorale pour pousser nos propres engagements, nos propres revendications. Puis ce qu'on a fait au débat...
Inversé.
Au débat inversé, dans le fond, pour la campagne fédérale 2025, on avait invité les candidats-candidates de l'Estrie à venir écouter nos membres, nos groupes qui ont des campagnes qui étaient extrêmement préoccupantes, puis ils devaient s'asseoir, puis les écouter.
C'est génial.
Alors, ça sera un peu la même formule qui pourrait...
Ça va être la même formule. Nous, on va sortir nos engagements, on va sortir nos propres plateformes, puis on va s'assurer de les transmettre aux candidats-candidates. Puis s'ils veulent vraiment représenter la population, ben ils vont venir à nos événements, puis on va écouter.
Exactement. Ben, c'est super. Ben, écoute, merci à vous trois. Justement, cette émission, elle est rediffusée aussi dès ce soir sur notre site Internet pour que, les patrons et les candidats et candidates puissent tous écouter l'émission et se réjouir.
En buvant un Porto ce soir à la maison.
Là. Exactement. Mm. Alors, on complète une musique de Claude Dubois et puis on laisse à la programmation. C'est Félix encore. Pascal, merci. Manon. Florence,
merci
infiniment.
Merci Alain.
Et à la semaine prochaine pour une autre émission, Logement un droit.
Il est midi
58 minutes.
La 5e édition de l'Afrofestival de Black History arrive à grands pas. Les 4 et 5 juillet 2026, rendez-vous au Parc Blanchard pour une célébration vibrante des cultures afrodescendantes. Une fin de semaine entièrement gratuite vous attend avec une programmation colorée. Exposants, prestations artistiques, traiteurs aux saveurs d'ici et d'ailleurs, maquillage pour enfants et bien plus encore. Venez découvrir, célébrer et partager des moments inoubliables en famille ou entre amis. Un événement organisé par Black History avec le soutien de la ville de Sherbrooke.
En toute saison, Père Nègre poursuit son aventure avec des gens qui font l'événement chez nous. Les samedis et les mardis sur l'heure du midi, des Père Nègre qui font du bien, qui rafraîchissent, émeuvent, témoignent, enrichissent et nourrissent l'âme. Animés par une épicurienne, des conversations qui parlent de tout, de rien et de tout, et de rien du tout. C'est votre Père Nègre hebdomadaire, sans queue ni tête et sans secret aucun.
Ça t'arrive parfois de sentir comme un grand vide à l'intérieur et te demander ce que tu préfères afin de rendre ta vie plus épanouissante.
CFLX te propose une expérience des plus enrichissantes en joignant son équipe de bénévoles dynamiques haute en couleurs. Tu as un esprit créatif, tu aimes le travail en équipe ou tu voudrais simplement nous faire valoir tes compétences, donne-nous un peu de ton temps. Renseignements disponibles à la station au 67